Kézéko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes.
Bon, vous l'aurez compris, la recherche scientifique est au cœur de ce podcast. Après tout, c'est ce qui fait avancer la science, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous restons toujours dans le domaine du spatial et nous allons plus précisément nous intéresser à l'activité solaire. Et oui, c'est bien de cet astre pilier de notre système dont je parle. Nous avons tendance à l'oublier de nos jours pour nous concentrer sur des planètes plus exotiques, mais ce dernier est essentiel à la vie comme il peut aussi lui nuire. Il est donc important de se pencher sur son activité. C'est d'ailleurs pourquoi je reçois aujourd'hui Étienne Paria, chercheur spécialiste de l'activité solaire qui va pouvoir nous éclairer un peu plus sur le sujet, ainsi que sur son métier de chercheur. Bonjour Monsieur Paria.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pourrez nous vous présenter votre activité ainsi que votre parcours en quelques mots ?
Alors je suis donc Étienne Paria, je suis chercheur au laboratoire de physique des plasmas, donc un laboratoire de Sorbonne Université et de l'Institut Polytechnique de Paris, et je travaille sur le soleil, je suis physicien solaire, et je travaille plus spécifiquement sur les éruptions solaires. Pour mon parcours, j'ai fait des études à l'université en physique essentiellement, j'ai ensuite fait un master en astrophysique. Par la suite, j'ai fait une thèse donc en physique solaire, donc c'est là où je me suis spécialisé dans l'étude des éruptions solaires. Et suite à mon doctorat, je suis parti aux États-Unis, où j'ai travaillé pour la NASA et pour le Naval Research Laboratory, des laboratoires qui étaient à Washington. Et ensuite, il y a à peu près 13 ans, en 2009, j'ai été recruté au CNRS, où je suis toujours à l'heure actuelle, donc pour étudier les éruptions solaires. Et à l'heure actuelle, donc, je suis le responsable du pôle de l'équipe Plasma Spatiaux, donc au laboratoire de physique des plasmas, au LPP.
Ok, et du coup, on voit que vous avez un parcours plutôt recherche, hein, avec la thèse, etc. Et pourquoi avoir choisi la recherche ? Est-ce que c'était une vocation depuis petit ? Vous saviez que vous vouliez faire ça ou c'était un peu par hasard ?
Alors, l'origine, ça m'a toujours intéressé, l'astronomie et l'astrophysique m'a toujours intéressé. J'avais fait, quand j'avais à peu près 10-11 ans, des colonies de vacances qui étaient un peu scientifiques. On pouvait faire de la robotique, on pouvait faire de l'informatique, on pouvait faire de la découverte de la nature, on pouvait faire de l'astronomie. La première fois que j'ai été mis en contact donc, lors de ces colonies de vacances à faire de l'astronomie, j'avais pas du tout aimé ça, il fallait se coucher tard, moi j'étais fatigué le soir, j'avais joué toute la journée, donc ça m'a pas trop plu. Mais à la fin des colonies, les camarades présentaient leur projet et ils avaient montré ce qu'ils faisaient sur les étoiles, et en fait ce qu'ils avaient fait, ça m'avait énormément intéressé. Donc par la suite, j'ai continué, je me suis dit « Ah bon, bah, ça vaut peut-être le coup de se réveiller, de se coucher tard, de ne pas dormir de la nuit. » j'ai continué à faire ça pendant mon adolescence, à faire régulièrement l'été des colonies de vacances sur de l'astronomie. Par la suite, alors ce qui m'intéressait c'était plutôt les étoiles, la nuit, les planètes, l'univers, les galaxies, d'où vient-on, les grandes questions. Le soleil ça m'intéressait pas tellement. Mais par contre au cours de mes études, j'étais en classe préparatoire et il y avait à l'époque les TIPE, les travaux d'intérêt personnel encadrés. Donc je crois que maintenant au lycée il y a aussi les TPE. Où on avait un projet, c'était un projet où il fallait faire un peu des recherches personnelles. Donc j'étais en classe préparatoire en 1999, et en 1999, en août, le 10 août 1999, il y a eu une éclipse totale de soleil qui a eu lieu en France, dans la région parisienne. Donc j'avais 19 ans à l'époque, je l'avais préparé. Cette éclipse, je me dis, moi l'astronomie ça m'intéresse, je vais faire ce travail sur les éclipses, sur les éclipses totales de soleil. Donc pendant toute l'année j'ai travaillé là-dessus, jusqu'à ce que l'éclipse ait lieu. Et là j'étais confronté à un spectacle qui est vraiment extraordinaire, qui est les éclipses totales de soleil, qui est un phénomène vraiment majestueux, où tout d'un coup on voit la couronne du soleil, donc la haute atmosphère du soleil se déployer avec cette lumière un peu argentée. Et donc ça m'a beaucoup marqué, et donc par la suite, lorsque j'ai voulu faire de la recherche, j'ai trouvé que d'étudier le soleil, c'était fantastique, c'était un astre qui était particulièrement somptueux. Donc voilà l'origine de mes recherches en physique solaire.
D'accord, donc là aujourd'hui vous faites de la physique solaire, c'est ça? C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait pour certains. Si vous aviez un lycéen face à vous, en quelques mots, comment vous expliqueriez en fait votre travail de recherche autour du soleil?
Alors moi aujourd'hui je travaille essentiellement sur les éruptions solaires. Donc, les éruptions solaires, c'est des phénomènes extrêmement violents, c'est les phénomènes les plus violents qui ont lieu dans le système solaire à l'heure actuelle. Une éruption solaire, une grosse éruption solaire, c'est 10 puissance 26 à 27 joules d'énergie. Alors les joules, ça me dit 10 puissance 26, 10 puissance 27, ça ne me dit pas grand chose, mais en gros, c'est à peu près 1 milliard de fois la bombe thermonucléaire la plus puissante qui ait jamais explosé sur Terre. C'est à peu près 100 000 fois la consommation mondiale d'énergie par l'humanité annuelle qui est libérée, ça, en seulement quelques dizaines de minutes. Donc c'est des phénomènes qui sont vraiment très puissants. Et ça n'arrive, c'est pas très loin, c'est pas au fin fond de l'univers, c'est né à peine que 500 secondes de lumière de chez nous. C'est-à-dire que la lumière d'une éruption met seulement 8 minutes à peu près pour nous arriver. Donc ces phénomènes très violents, très brusques. Pendant très longtemps, le principal impact qu'il y avait sur Terre, c'était de manière un peu indirecte de produire des superbes aurores polaires, donc un autre phénomène majestueux. Sauf que notre société est en train de changer. Notre société est en train d'utiliser les satellites, en train de tirer des câbles un peu partout sur Terre. On extrait de l'électricité à un endroit, on va la transporter à des milliers de kilomètres de là. Et que tous ces phénomènes, toutes ces structures, elles finissent par être impactées par ces éruptions solaires. Puisque ce que le Soleil envoie, c'est de la matière magnétisée qui vont interagir avec les systèmes technologiques humains et qui en fait vont perturber. Donc il est en train de se développer une discipline qui s'appelle la météorologie de l'espace, où l'objectif c'est de prévoir et de manière quantitative l'impact de l'activité du Soleil, de l'activité d'une étoile sur nos activités humaines. Et c'est fondamental par exemple pour la prospective de déploiement de l'humanité dans l'espace, si un jour on veut aller sur la Lune, si on veut aller sur Mars, si on veut aller sur les astéroïdes, etc. C'est quelque chose qu'on va devoir prendre en compte de plus en plus dans nos activités.
D'accord, donc en fait l'apport finalement de l'étude solaire a un impact sur nous en tant que terriens, c'est ça?
Ah bah de plus en plus, et en fait même déjà de tous les jours. Donc j'ai des collègues ici qui travaillent au LPP, en partenariat avec des collègues par exemple de l'Observatoire de Paris, qui très régulièrement mesurent la quantité d'émissions qui est faite, de radiation qui est faite par le Soleil. Et par exemple on a des partenariats avec l'armée de l'air, on a des partenariats avec l'aviation civile, où par exemple n'importe quel personnel navigant aujourd'hui des compagnies françaises, des gens qui travaillent pour des pilotes, des stewards, des hôtesses qui travaillent pour Air France par exemple, tous les mois ils reçoivent leur dose qu'ils ont reçue lors de leurs différents trajets. Et ça c'était calculé par des physiciens solaires. Moi je travaille sur la prédiction des éruptions solaires, on essaie de comprendre quand est-ce qu'une grosse éruption va avoir lieu. C'est pas éventuellement pour contacter des opérateurs satellites, pour leur dire attention, c'est pas le moment de faire des opérations sensibles, vous risquez de perdre votre instrument, votre satellite, si jamais une éruption a lieu. On a vu récemment aussi, par exemple, et des satellites Starlink ont été envoyés donc par la compagnie d'Elon Musk qui cherche à déployer de l'Internet global mondial. Lors d'un lancement de plein de nanosatellites, il y a une trentaine de satellites qui ont été perdus juste après le lancement parce qu'en fait à ce moment-là il y a une activité solaire un peu plus importante, on va dire, qui a modifié un petit peu la densité de l'atmosphère terrestre et ces satellites n'ont pas réussi à être mis en orbite. Il y a d'autres événements comme ça. Il y a eu quelques années, il y a l'espace aérien de toute la Scandinavie qui a été perturbé. Il y avait une éruption solaire. Le Soleil émettait des ondes radio qui étaient capturées par les radars qui contrôlent l'approche des avions. Et les radars étaient saturés, donc ils ont décidé de fermer l'espace aérien pour assurer la sécurité du transport. Et l'événement le plus important qui a eu lieu, par exemple, c'était en 1989 au Québec, où lors d'une éruption solaire qui n'était pas particulièrement violente, mais elle a eu un impact, elle a créé un court-circuit dans les réseaux de transport d'électricité dans la province du Québec au Canada, et ça a coupé l'électricité de toute la province du Québec, une partie de la Nouvelle-Angleterre, donc des villes telles que Boston. Donc c'est vraiment des dizaines de millions d'habitants qui pendant 24 heures n'ont pas eu d'électricité suite à une éruption solaire.
D'accord, donc finalement il y a un réel intérêt d'étudier le soleil. Justement, moi ce que je comprends pas, c'est que finalement le soleil est assez loin comme n'importe quel astre, et c'est un peu la problématique de l'astronomie. Comment on fait pour prélever des données sur un astre auquel on n'a pas accès finalement?
Alors, le soleil est loin, mais c'est une étoile qui est quand même qui est pas si loin que ça. Au final, c'est que 150 millions de kilomètres. En termes de vitesse de la lumière, hein, c'est ce que je disais, c'est à peine 500 secondes de distance. Ces éruptions, les grosses éruptions, par exemple, quand le Soleil éjecte de la matière est éjectée de manière assez rapide, elle va à peu près à 1000, entre 500 et 2000 km par seconde. 500 à 2000 km par seconde, ça veut dire que ça arrive sur Terre, la matière qui est éjectée, elle arrive sur Terre en à peu près un jour et demi à trois jours. Donc vous voyez, il va y avoir une véritable interaction entre le Soleil et la Terre. Et donc pour observer, pour comprendre cet astre, en fait, après la Terre, au final, le Soleil est l'astre le plus observé, c'est-à-dire qu'en permanence, on a donc des satellites, des télescopes sur Terre, mais aussi un certain nombre de satellites qui surveillent véritablement le Soleil. Il y en a à peu près une dizaine à l'heure actuelle. Il y a des nouveaux, et en ce moment on est en train de faire, il y a deux satellites qui sont particulièrement intéressants, qui essayent de comprendre mieux la connexion, les relations entre le Soleil et la Terre. Donc jusqu'à présent on prenait des images depuis la Terre ou depuis l'environnement de la Terre. Là récemment on vient de lancer deux missions, donc l'une qui s'appelle Parker Solar Probe, qui a été lancée par la NASA aux États-Unis, qui va vraiment frôler le Soleil. Donc elle va aller jusqu'à à peu près 10 rayons solaires de distance de la surface du Soleil. Donc vraiment, elle va rentrer dans la haute couronne du Soleil, dans la haute atmosphère du Soleil. C'est ce qu'elle a fait récemment. Alors c'est une mission, en exagérant un peu, c'est un thermomètre sophistiqué. C'est-à-dire que elle prend pas d'image, mais vraiment elle arrive au cœur de cette atmosphère du Soleil. Donc elle va nous permettre de prendre des données, de savoir ce qui se passe véritablement là-bas, donc toute la physique des processus. Et puis en parallèle, il y a une autre mission qui s'appelle Solar Orbiter, qui a été lancée celle-là en 2020, qui est une mission européenne. Et Solar Orbiter, elle va à peu près au tiers de la distance Terre-Soleil, donc elle va en deçà de l'orbite de Mercure. Et elle, c'est une mission, c'est vraiment une mission orchestre. Elle a une dizaine d'instruments, elle a des instruments de mesure in situ, où elle va prendre la température, la composition de la matière, les propriétés du champ magnétique localement. Et puis elle va prendre beaucoup d'images en même temps de contexte du Soleil. Elle va prendre des images, on dirait scientifiquement à haute résolution, donc des images telles qu'on n'en a jamais vues, de l'atmosphère du Soleil, qui permettent véritablement de faire le lien entre ce qui se passe sur le Soleil et ce qui va arriver au niveau de la satellite. Et ça nous permet donc de comprendre, de mieux comprendre l'ensemble du processus, la manière dont le Soleil est connecté à la Terre.
Donc vous, là, ces différentes missions, en fait, elles vous aident concrètement finalement à avancer dans vos recherches. Et justement, je voulais vous demander, les recherches que vous menez avec votre équipe, est-ce qu'elles ont permis d'avoir finalement des résultats concrets, une avancée finalement dans cette thématique-là liées aux éruptions solaires, à l'activité du Soleil en général, ou pas vraiment?
L'astrophysique marche encore beaucoup par incrément. C'est-à-dire chaque fois qu'on a une nouvelle mission, on a des nouvelles données, d'une part, ça nous permet de confirmer ou de valider des modèles précédents. Avec les données précédentes, en général, on avait des idées sur certaines théories. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et donc lorsqu'on a des nouvelles données, souvent, elles sont construites avec des objectifs précis. Et l'objectif, c'est de pouvoir répondre, ces nouvelles données vont permettre de faire la différence entre est-ce que cette théorie et cette théorie-là, entre deux théories, laquelle est la théorie correcte. Souvent ces missions-là, elles permettent d'acquérir des données dont on ne s'attendait pas. C'est souvent comme ça qu'on fait des découvertes. C'est que, par exemple, vous voyez, Parker Solar Probe, elle est partie proche du Soleil, et elle a découvert que lorsqu'on s'approchait du Soleil, le vent solaire, c'est-à-dire le flot de matière qui est en permanence envoyé par le Soleil, quelque chose de continu, et bien proche du Soleil, il y avait des variations du champ magnétique, le champ magnétique fluctuait, changeait même de direction, et ça on ne s'attendait pas du tout. Enfin, et pas du tout de manière aussi fréquente. Donc c'est souvent comme ça que ça marche, qu'on a une nouvelle mission qui est censée répondre à certaines questions, et puis on découvre des choses nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et ensuite on passe un certain nombre d'années à essayer de comprendre, on utilise des ordinateurs, on reproduit, on va dire, par le calcul, par les équations, la manière dont on pense se déroule les phénomènes physiques, et puis jusqu'à la prochaine mission qui va permettre de confirmer ou pas ces informations. Donc pour l'instant, on va dire Solar Orbiter et Parker Solar Probe, elles ont été lancées donc en 2018-2020, elles restent encore, c'est des missions récentes pour véritablement avoir apporté des données qui tout d'un coup changent fondamentalement nos compréhensions. Mais les missions précédentes, on peut penser à Solar Dynamic Observatory, qui a été lancée par la NASA il y a 10 ans, très souvent lorsqu'on voit les images du Soleil aujourd'hui, ça vient de cette mission-là, elles nous permettent de bien mieux comprendre comment fonctionnaient les éruptions solaires, d'arriver à commencer un peu à les prévoir. On est très loin de... Quand on veut prédire les éruptions, on a un retard de 100 ans par rapport à la météorologie terrestre. On est très loin de comprendre, d'arriver à pouvoir prédire quand est-ce qu'il va pleuvoir, s'il va pleuvoir, s'il va y avoir un orage. Et même, vous savez, les orages, ça reste la prévision exacte est difficile. Donc ça nous permet de faire des vases avancées, mais on ne comprend pas tout d'un coup, on va dire.
Ok, ça marche. Donc finalement, en fait, ce domaine de recherche évolue avec les nouvelles données, parce qu'au début, on n'avait vraiment pas accès à énormément de choses concernant le Soleil. Et là, finalement, ça commence à se démocratiser en quelque sorte, on a accès à plus de données. Est-ce que des fois, il y a par exemple des révélations? C'est-à-dire, est-ce que vous visualisez finalement le Soleil d'une certaine manière et puis il y a une certaine donnée qui va vous faire finalement changer toute cette vision que vous aviez de cet astre?
Donc c'est celle que je mentionnais par exemple sur ces fluctuations. Donc on parle, le terme technique, ça a été nommé switchback, donc c'est une sorte d'inversion du champ magnétique, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Et qu'en fait, ces observations, elles posent de grandes questions sur la manière dont certaines questions fondamentales sur le Soleil vont pouvoir être résolus. En fait, on a des grandes questions, on a encore quelques-unes grandes questions sur le Soleil, des problèmes qu'on connaît depuis très longtemps et qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore réussi à résoudre. Donc ces grandes questions, c'est par exemple pourquoi la haute atmosphère du Soleil est très chaude. Donc lorsqu'on regarde de cette couronne solaire, donc cette atmosphère qu'on voit lors des éclipses totales de Soleil, si vous voyez des images d'une éclipse totale, cette couronne, cette structure argentée, elle a une température de plus de 1 million degrés, alors que la surface du Soleil n'a une température que de 6000 degrés. Alors d'habitude, quand on s'éloigne d'un objet, quand on a une source de chaleur, on sait que les réactions thermonucléaires qui ont lieu au cours du Soleil sont vraiment lieu dans l'intérieur solaire, quand on s'éloigne d'une source de chaleur, normalement il est censé faire de plus en plus froid. Et avec le Soleil, c'est pas du tout le cas. Il y a un moment où l'atmosphère du Soleil augmente énormément. Et ça, on n'arrive jusqu'à présent pas à comprendre, complètement à comprendre pourquoi. Enfin, pas comprendre, c'est-à-dire qu'on a plusieurs théories, mais on ne sait pas laquelle est la bonne. Un problème qui est très lié, c'est l'origine de ce vent solaire. Donc c'est ce flot de matière. En permanence, le Soleil éjecte un certain nombre de la matière, un flot continu. On ne sait pas quel est le mécanisme qui permet de faire ça. D'autres grandes questions, c'est l'origine des éruptions solaires, par exemple. Qu'est-ce qui crée une éruption solaire? Pourquoi une éruption solaire se déclenche? Pourquoi, lorsqu'on voit des taches solaires, on sait qu'on a une concentration de champ magnétique. Pourquoi tout d'un coup, il va y avoir une éruption en quelques dizaines de minutes? Et pourquoi ça n'arrive pas tout le temps? Ça, c'est d'autres grandes questions. Donc c'est de très très grandes questions. Je dirais, c'est pas forcément nécessairement du jour à l'autre qu'on arrive à y répondre. Mais on voit par exemple que pour le vent solaire, ces switchbacks, ces fluctuations du champ magnétique, elles nous apportent une information nouvelle que les théories doivent être capables d'expliquer pour expliquer le chauffage et le vent solaire. Donc c'est par exemple ces fluctuations. La question à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'elles sont créées localement, on va dire, entre le Soleil et la Terre, c'est quelque chose qui est une production locale dans le milieu interplanétaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est généré sur le Soleil et qui va se propager un peu partout dans le vent solaire?
D'accord, ça marche. Écoutez, merci beaucoup. Là, c'était la première partie de l'interview qui portait sur finalement votre thème de recherche. J'ai aussi eu des questions sur le métier de chercheur. Pour vous, en fait, parce que ça dépend des personnes, c'est quoi une journée type dans votre métier de chercheur?
Alors une journée type. Alors moi aujourd'hui j'arrive à un point de ma carrière où je suis moins directement, à mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que j'ai une position de plus en plus de gestionnaire de la recherche. Donc je suis coordinateur d'un groupe. Dans ce groupe il y a à peu près une vingtaine de chercheurs. On a une dizaine d'ingénieurs, une dizaine de doctorants, d'étudiants donc qui sont en train de faire des thèses en recherche. Donc ma journée type, ça va être Pendant quelques heures, en fait, je vais discuter avec les étudiants qui, eux, travaillent, les étudiants que j'encadre, qui vont me présenter leur travail, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la dernière fois. On fait un point en général 2 à 3 fois par semaine. Donc, ils vont me dire qu'est-ce qu'on a vu depuis la dernière fois. Je vais essayer de les guider, on va discuter des résultats, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend pas, je vais leur faire des propositions de qu'est-ce qu'ils devraient faire pour avancer. Voilà, donc en fait, c'est plutôt, à l'heure actuelle, c'est plutôt eux qui travaillent. On va dire qu'ils travaillent directement, qu'ils font les calculs, la thématique, c'est beaucoup de la simulation numérique, de l'expérimentation numérique, c'est-à-dire que j'essaie de reproduire ce qui se passe sur le soleil via des ordinateurs. Donc c'est là-dessus qu'on discute. Ça, c'est une partie de mon travail. C'est le travail véritablement de recherche. Ensuite, ce que je fais, c'est beaucoup de pilotage. Je vais organiser, je vais gérer le budget de l'équipe, je vais faire des réunions avec où je discute beaucoup quelles orientations stratégiques on doit faire, quel appel d'offres, où est-ce qu'on doit aller chercher de l'argent pour pouvoir financer des jeunes chercheurs, financer des thèses. Je vais discuter avec différentes instances pour savoir qu'est-ce qui est intéressant, discuter avec que ce soit nos financeurs, ou discuter avec l'équipe pour qu'on se mette d'accord, par exemple, sur quel profil de poste, quel type d'emploi on a véritablement besoin dans l'équipe, donc quel ingénieur on va avoir besoin par la suite, qu'est-ce qu'on va devoir défendre pour la suite. Je vais faire aussi des demandes de recherche de financement, c'est-à-dire qu'à partir des résultats que mon équipe a obtenus ces dernières années, je vais écrire des documents où je vais aller vis-à-vis de différentes instances, donc par exemple la région Île-de-France, les différentes universités, où je vais essayer de justifier pourquoi la recherche que fait mon groupe, donc c'est-à-dire mes collègues et les étudiants avec qui on travaille, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ils devraient nous donner plus d'argent pour qu'on continue à travailler. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ce que je fais en tant que chercheur senior dans un groupe de recherche.
Donc tout au long de votre carrière, vous avez pu découvrir finalement les différentes facettes du métier de chercheur, donc la partie plus sur le terrain, la partie plus gestionnaire. Et globalement, qu'est-ce que vous retenez finalement du métier de chercheur? Quels sont les points positifs et les points négatifs aussi?
Alors les points positifs, c'est que c'est un métier qui se renouvelle tout le temps. C'est, on ne fait jamais la même chose. On est en permanence, par définition, notre objectif c'est de chercher, c'est pas nécessairement de trouver, on ne se satisfait pas d'une réponse, c'est qu'on est, sans arrêt confronté à notre ignorance. Donc notre objectif c'est, à chaque fois qu'on a mieux compris quelque chose, en fait, on est confronté, moi le Eureka, j'ai jamais vu, à chaque fois j'ai vu, il y a une question dont je me posais il y a 6 mois, j'ai finalement réussi à y répondre, j'y ai répondu il y a à peu près 3 mois, mais je suis confronté à des nouveaux problèmes, à des nouvelles questions que j'ai, et mon objectif, c'est véritablement d'arriver à formuler correctement ces questions. C'est un métier créatif. Aussi, c'est vraiment un métier où on est confronté à un problème, il faut imaginer la manière de le faire, imaginer des protocoles, alors que ce soit des protocoles expérimentaux, mais aussi des protocoles d'observation, quel type d'observation on veut donner, par quel moyen on veut faire, pour arriver à répondre à cette question. Donc il faut vraiment réfléchir, se remettre en cause. Donc voilà, c'est un métier qui n'est jamais identique, et sur lequel on évolue. C'est un métier aussi, les points positifs, qui est un métier de curiosité, donc on fait un travail qui nous passionne, on apprend en permanence, c'est un métier où vraiment on apprend tout le temps, il faut qu'on apprenne tout le temps, il faut tout le temps qu'on se remette en question là-dessus. C'est un métier où on travaille avec des gens qui sont très intéressants, qui travaillent sur plein de choses, on rencontre pas forcément directement, mais on finit par rencontrer des gens qui travaillent aussi dans d'autres domaines, qui travaillent sur de la biologie, qui travaillent sur des nouvelles technologies, qui travaillent sur les langues. Et on est en contact avec vraiment tout le temps des nouveautés, pas forcément sur le domaine où on est spécialisé, mais qui est vraiment, quand on a soif d'apprendre, qui est véritablement génial. C'est un métier aussi où, en définitive, on est dans la coopération, qui est très fortement valorisée. On n'est pas en train de construire des armes, on n'est pas en train de tuer des gens, on est en train de produire du savoir, et donc c'est socialement valorisé. Vous voyez, vous avez une jeune lycéenne qui vient dans mon laboratoire pour savoir ce sur quoi je travaille. Pour l'ego, en tant que personne, c'est assez satisfaisant. Alors, les difficultés, elles sont pas liées à ça. C'est un métier qui est frustrant, parce que c'est un métier où on est en permanence confronté à son ignorance, on est en permanence confronté à sa limitation, qu'est-ce qu'on peut pas savoir, qu'est-ce qu'on va pas savoir. Il y a des choses que j'aimerais bien savoir sur l'univers, sur lesquelles je vais passer ma vie à travailler, et je sais que j'aurai jamais la réponse. C'est un métier qui se travaille à très long terme, on a certains de nos projets qui se font sur des dizaines et des dizaines d'années, sur une carrière entière. Certaines missions spatiales, je parlais de Solar Orbiter, les chercheurs qui en ont eu l'idée, ils en ont eu l'idée dans les années 90, aujourd'hui ils sont à la retraite, et alors que la mission vient d'être lancée, et on va avoir encore des données pendant une dizaine, une vingtaine d'années qui vont être analysées. Donc au fur et à mesure de sa carrière, il y a certains projets. Quand on est jeune, on voit les projets lancés, on travaille dessus. Petit à petit, on commence à faire un ou deux projets qu'on voit naître au début et puis on y passe toute sa vie. Et puis j'imagine que vers la fin de ma carrière, il y a certains projets dont j'aurais peut-être l'idée, où je participerai à la création, et puis je la donnerai à d'autres personnes et je les verrai jouer un bel jour parce que je mourrai avant. On se projette véritablement sur le très long terme. C'est un peu comme les constructeurs de cathédrales au Moyen-Âge, où définitivement certains ingénieurs ont passé la vie à construire une cathédrale, voire plusieurs générations sans jamais le voir. Il y a cet aspect de très long terme. Voilà.
D'accord, maintenant j'ai envie de vous demander, pour clôturer ça, que diriez-vous finalement aux jeunes étudiants qui voudraient devenir chercheurs plus tard? Est-ce que vous aurez des conseils, des motivations?
Il faut être très 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 motivé. C'est aujourd'hui, dans le contexte en tout cas français, c'est un métier qui. C'est une thématique qui ne se développe pas. On est plus ou moins, comme c'est beaucoup de la recherche, on va dire. La recherche, alors je parle plutôt dans mon domaine qui est de l'astrophysique, on va dire de la recherche un peu théorique, qui se fait à volume constant. C'est-à-dire qu'il n'y a très peu, il n'y a plus de création de postes. Donc ça veut dire que c'est souvent, pour qu'il y ait un nouveau poste, il y a un départ en retraite. C'est des métiers qui sont très recherchés, qui sont très compétitifs. Donc faut se lancer là-dedans en sachant que, en tout cas quand on fait ses études, de se dire je tente ma chance, j'en profite, peut-être que j'en ferai pas ma carrière, peut-être que je ferai autre chose, parce que ça dépend pas que de soi, ça dépend pas que si on est bon, si on est pertinent, etc. Ça dépend aussi beaucoup du contexte. Mais en tout cas, c'est un métier, qui est fascinant et qui est très agréable si on est très 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 curieux.
D'accord. Écoutez, c'est sur ces beaux mots qu'on s'arrête. J'espère en tout cas que l'interview vous a plu. J'espère également que ceux qui nous écoutent, cette interview a pu répondre à certaines de vos questions, vous éclairer. Je vous retiens pas plus longtemps et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Sarah de Kezako.